Bonjour. Voilà, elles sont maintenant loin, les grandes vacances. J'espère que vous en avez bien profité, en famille ou entre amis, avec du soleil, peut-être de la plage, probablement des apéros, des barbecues, et pour arroser tout ça, on l'espère, de bons et beaux vins. L'été fini est venu pour les vignerons, le temps des vendanges, et l'arrivée d'une nouvelle récolte qui donnera dans quelques mois un nouveau millésime que l'on annonce déjà très intéressant. Eh bien nous, après s'être bien prélassés, la terre à boire fait elle aussi sa rentrée aujourd'hui. Et nous sommes tous très heureux de vous retrouver. Les vignerons sont dans leur chai, ils concoctent les jus qui nous raviront bientôt. Mais nous avons trouvé, rassurez-vous, d'autres invités pour ce mois d'octobre, avec qui nous parlerons de vin. Pas pour décortiquer les arômes dans un vocabulaire savant auquel le commun des mortels ne comprend rien, non, plutôt à la manière de la terre à boire, en parlant de sensations et d'émotions, de partage aussi, et en s'intéressant notamment à la façon dont cette culture du vin à la française est perçue par quelqu'un venu d'ailleurs. Ce 39e épisode s'intitule Laurie Martinez, American Wine Lover, bienvenue dans la terre à boire. Nous sommes dans un bistrot qui s'appelle Macafleury, au 177 de la rue Saint-Denis. C'est une des nouveautés de l'année. On a déjà fait des lives l'année dernière, mais cette année, on va essayer de faire, peut-être pas que ça, mais on va essayer de changer à chaque fois et de se promener un petit peu comme ça dans les lieux du vin à Paris. Autour de moi, la fine équipe qu'on est content de retrouver. À ma gauche, Florence Taragoni. Bonjour Florence.
Bonjour.
Laurent Delceau, bonjour.
Bonjour.
Patrice Defay, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous avez tous passé un bel été ?
Bien travaillé.
Ouais, c'est ça. Les deux cavistes à la table, là, ils ont les yeux, là, ils se disent « Est-ce que j'ai vraiment passé un été ou est-ce que j'ai passé mon temps à travailler, à ouvrir
la bouteille ?» Pas trop l'impression d'avoir eu des vacances, non.
Non. Bon.
Bah moi, j'ai eu des bonnes vacances, hein, tout le monde s'en fout, mais moi, j'ai pas bossé. Et 3 semaines géniales en Corse. Voilà.
Voilà, c'est ça. Sur la terrasse d'Antoine Arena, notamment.
Une soirée, oui.
Et donc, pour finir, autour de la table, avec notre invité du jour, Laurie Martinez, bonjour.
Bonjour.
Laurie, d'abord, on est ravis de commencer cette nouvelle saison avec toi. Tu es podcasteuse ou plus précisément productrice de podcasts.
Oui.
En fait, on ne t'entend pas forcément dans les podcasts que tu produis.
Non, je suis cachée derrière.
Cachée derrière. Tu es, pour te présenter en quelques mots, tu es une Américaine à Paris.
Oui, New-Yorkaise plus précisément.
New-Yorkaise, tu vis à Paris depuis 3 ans.
Oui.
Journaliste de formation, en radio notamment, à la NPR, la fameuse radio publique américaine, tant vantée pour la qualité de ses contenus.
Oui.
C'est un peu le Radio France américain.
Oui, c'est ça.
C'est ça, que peu de gens écoutent, mais qui fait des choses formidables. C'est la réputation qu'elle a.
Oui.
Il y a quand même beaucoup de gens qui l'écoutent, c'est ça ?
Bah, ça change, parce qu'ils ont de plus en plus de podcasts. Donc disons que ça touche un cible plus grand maintenant.
Alors, toi, tu t'es concentré sur le podcast. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu étais aux États-Unis, tu étais une journaliste qui traitait de différents sujets. Et puis le fait d'arriver en France, quelque chose se passe parce que tu fais des podcasts, notamment un que moi j'écoute et que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle À Poil.
Oui.
Ça s'écrit O-E-L-E. Hein. il s'agit d'interviews de chefs, de restaurants gastronomiques.
Et aussi des restos, des tables cachées, des tables d'hôtes, c'est tout type de chefs. Même les chefs freelance, on en a interviewé avec la journaliste Julie Gerbet, c'est son bébé, son projet. Et moi, je suis derrière les scènes pour faire que ça marche et que ça sonne bien.
Alors, est-ce que c'est le fait de vivre ici qui t'a donné envie de faire des choses autour de la cuisine ? Parce qu'on va en parler juste après, mais tu as aussi un projet dans le vin. Ou est-ce que voilà, c'est quelque chose, c'était une passion que tu avais déjà en partant
J'étais déjà très attirée par la France, justement pour la culture de la cuisine et pour le vin et tout ça. Mais c'était surtout pour la langue française que je suis venue en fait. Parler français aux États-Unis ne me sert pas à grand-chose. Donc j'ai voulu vraiment venir pour utiliser mon français dans mon métier. Et puis, c'était un peu par hasard que je suis tombée dans cette genre. J'ai eu un projet qui s'appelait The New Paris Podcast, qui était avec une journaliste justement spécialisée dans la nourriture. Et après ça, à poil, et puis ensuite un podcast que j'aime beaucoup beaucoup faire qui s'appelle Dinner for One, qui est un podcast en anglais mais basé à Paris, qu'on enregistre dans une petite cuisine, et c'est en fait le plaisir de manger toute seule, même si t'es tout seul. Et voilà,
donc, c'est une américaine qui est venue parce qu'elle a suivi son mari. Finalement, il n'y a plus de mari parce qu'il n'y a plus de mariage, mais elle décide de rester à Paris. Je sais pas, elle transmet un peu ce qui lui plaît dans la vie ici, et ça passe par sa cuisine. Quoi.
Oui, c'est ça. Et en fait, en faisant ce programme, ça m'a fait redécouvrir le plaisir des plats, des ingrédients. J'ai recommencé à vraiment chercher la cuisine française. Je suis allée chez le sommelier. Maintenant, j'ai une habitude de faire ça que je n'avais pas quand je suis arrivée, parce que je n'avais pas ces habitudes de cuisine. Et puis ensuite, avec À Poil, j'ai eu quand même beaucoup plus de connaissances que je n'avais pas avant sur le vin, sur ce qui est une repas gastronomique et tout ça. Qui avant, à New York, ce n'était pas quelque chose qui était partie de ma vie quotidienne. En fait, je dirais pas qu'on mange mal à New York, mais c'est plus qu'on n'a pas une culture de ça. On parlait tout à l'heure du vin, on n'a pas la même culture du vin. C'est pas autant accessible, le vin, pour les jeunes Américains, disons, parce que c'est très cher. Donc pour moi, une partie du charme de la France, c'est que moi j'adore le vin, et je peux acheter une bonne bouteille pour 15 euros au max, c'est super. Et donc j'ai pris cette arrivée en France comme une école de nourriture et une école de cuisine comme ça.
On te propose le concept de la terre à boire, c'est d'aller visiter chaque mois une nouvelle région. Il faut que je dise à un moment qu'on va changer des petites choses sur cette deuxième saison. Il y a des choses qui vont rester, évidemment, c'est l'équipe qui est là autour de moi, et puis il y en a d'autres qui vont passer au micro, mais là je dirais qu'on a le cœur de...
Le noyau dur
de l'écurie, les titulaires. Et puis on va rester dans cette découverte des terroirs, à visiter chaque mois une région. La chose qui va changer le plus, c'est qu'on va plus être en hebdomadaire, on va plutôt passer en quinzomadaire, ce terme, voilà, pour pas se tromper entre bimensuel et bimestriel, on a inventé quinzomadaire, donc c'est bimensuel, hein, je vous rassure. Donc deux fois par mois, tous les 15 jours, on va produire un épisode. Donc on aura deux épisodes et non quatre pour visiter une région. Et du coup, on va goûter plus de vin dans chaque épisode. Ça, c'est la bonne nouvelle.
C'était le prétexte, en fait. C'était comment on fait pour goûter plus de vin. On a trouvé cette idée-là qui était, au final, assez géniale.
On commence avec une région qu'on n'a pas encore traitée et qui a un petit peu le parfum des vacances, puisque ça va être la Provence. Et on va du coup déguster en deux temps 6 vins. J'annonce tout de suite la couleur, ou plutôt les couleurs, parce qu'enfin on va parler de rosé. Mais je m'avance pas trop parce qu'on va commencer par des blancs. Mais enfin on va parler de rosé, parce qu'on nous a dit vous ne parlez jamais de rosé. Bah non, c'est vrai qu'au départ le rosé c'est pas un truc qu'on adore, on peut dire ça, les uns les autres.
Oui, on n'est pas fan, mais bon, il y a des choses intéressantes. Est-ce que c'est un vin? Ce serait un des sujets peut-être à développer.
J'aime pas trop, mais je pense que j'ai toujours pas trouvé un bon vin rosé. Je pense que c'est ça. Peut-être ça va être aujourd'hui. On sait jamais.
C'est le challenge.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les vins de Provence?
On peut dire plein de choses. Alors, dans l'ordre chronologique, c'est le point d'entrée du vin en France, déjà, la Provence. Les Phocéens... peuplades grecques ont investi la Provence près de Marseille, Massala, etc. dès le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce sont eux qui ont amené, qui sont servis de la zone marseillaise et de la Provence, donc des Bouches du Rhône, cette bouche, je dirais, départementale, pour abreuver les Français de la Gaule à l'époque, de vin grec. Et puis après, au bout d'un siècle, à partir du 4e siècle, ils ont planté de la vigne, ils ont pas mal de cépages. Un nombre de cépages autochtones ont été amenés par les Grecs phocéens. Et après, c'est les Romains, histoire de conquête sudiste, et surtout à partir du IIe siècle, qui se sont également servis de la Provence pour être le point d'entrée pour l'ensemble de la Gaule et pour approvisionner, vendre leur vin dans tout le territoire. Parce que le vin, à l'époque, était, je dirais, une denrée rare et un grand moyen de pression économique et de leadership économique. Des Romains sur l'ensemble de la Gaule. Il y a une phrase assez intéressante qui dit d'ailleurs que c'est aussi l'entrée de la civilisation en Gaule, puisque le fait de vinifier pour les Gaulois du Sud, bah ça, ils ont commencé à arrêter de se taper dessus, à avoir une culture de la culture, justement. Et c'est aussi le début de la civilisation de la Gaule, qui était à l'époque un peuple assez barbare. Donc déjà, la Provence...
Tu veux absolument lier vin et civilisation.
Bien sûr, mais je ne démordrai pas de ça. après, on peut avoir des débats.
Non, mais ça
donc déjà, la Provence, la Provence a une histoire. Alors après, on peut imaginer que cette... Enfin, on peut peut-être dire peut-être que cette histoire est un petit peu galvaudée. C'est un territoire... Alors maintenant, parce qu'il y a beaucoup de... Il y a une perception du vin qui est très rosée, on va dire, en Provence. Mais c'est un territoire assez vaste, hein, qui va en gros du sud d'Aix jusqu'à Nice, donc ça fait pratiquement 500 km de large, hein. C'est beaucoup plus grand qu'une région comme la Bourgogne ou le Beaujolais, donc on a très très grande disparité de bien sûr de cépages, mais aussi de terroirs et puis de production. Il y a 9 AOC, hein, pour aller revenir.
On va en goûter quelques-unes,
voilà,
d'ailleurs.
Donc, globalement, les plus intéressants sont quand même les micro-territoires, hein, que ce soit Palette, Beau-de-Provence, Cassis, Bandol. Les côtes de Provence globalement sont un peu côtes de Provence, côtes varois, etc. Ce qu'on appelle les sous-appellations régionales sont plutôt des vins un peu volumiques et assez peu intéressants sur l'expression du terroir, et c'est là où on trouve le rosé. Moi, après, la Provence, c'est pour moi, j'appelle ça dans ce qu'on en conçoit, j'appelle ça un peu la toute proportion gardée, la Champagne du Sud, quelque part. C'est-à-dire qu'on a une image, le Champagne est lié à la fête, la Provence est liée à l'été. Donc il y a une image préconçue et préconstruite. C'est un vin événementiel, hein, c'est un vin d'été, en tout cas pour ce qui est sa version rosée. Et puis c'est aussi une image un peu romantique pour les étrangers, la Provence, comme la Champagne peut l'être par rapport à l'aspect... un peu noble d'un Dom Pérignon et des choses de ce type-là. Tiens. Une vision un petit peu romantique, je pense, de la Provence sur le sud. Donc ce qu'on retrouve globalement dans les vins, c'est vrai, ce qu'on vient parfois y chercher, c'est le soleil. À défaut de terroir, on y retrouve le soleil partout, à peu près, exprimé par notamment, je pense, le Grenache et le Cinsault, on pourra y revenir. Mais voilà, c'est un préconcept, on va dire, un peu comme la Champagne, marketing, déjà en amont, qui permet... à la Provence et à ses rosés d'être vendus un petit peu partout.
Laurie, tu avais une idée, toi, de la Provence? Quand on dit Provence, on pense pas forcément au vin. Quand on dit Provence à un Américain, d'abord, il comprend ou pas?
Non.
Ça lui évoque quelque chose?
Pas vraiment.
Non.
Moi, je n'ai jamais entendu vraiment parler de ça. Je ne savais pas que le rosé, par exemple, venait du Provence. Ça, c'est quelque chose que j'apprends.
On ne fait pas des rosés qu'en Provence, mais en Provence, on fait beaucoup de rosés.
Beaucoup, 80, beaucoup
ouais, de rosés. La production est provençale en volume et du rosé, en fait, de rosé.
Et Provence, il y a pourtant ce film là qui se passe en Provence. La Provence, elle est connue. Comment il s'appelle? Avec l'acteur australien. Je vais dire des bêtises. Hein. Tu sais, Gladiator là.
Oui. Ah, avec Marion Cotillard, ouais. En version productrice de vin.
Ah non, ça se passe peut-être pas en Provence, ça se passe peut-être en Toscane alors.
Je sais pas.
Il me semble qu'il y a un film américain qui dégouline là dans des.
On l'a pas vu.
Ouais, bon. C'est pas grave. Pendant que tu parlais, Patrick, j'ai servi dans les verres un premier blanc. J'ai trouvé ce petit domaine de la ferme blanche qui est un assemblage de plein de raisins blancs. Voilà. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que l'appellation d'origine protégée Cassis impose comme cépage, mais je vais vous lire ce que me dit l'étiquette. Marsanne, Clairette, Uny, Blanc, Sauvignon. Il y a même du Sauvignon là-dedans. Et là, on est dans un vin qui n'est pas... qui en fait pas des tonnes, mais qui est vachement rafraîchissant, qu'on boit là bien frais d'ailleurs, un peu à l'apéro, et qui, je trouve, fonctionne bien. Alors vous allez me dire ce que vous en pensez. Pendant que vous dégustez, je vais juste te dire où je l'ai acheté. Et là, vous allez me regarder avec des grands yeux. Mais je l'ai acheté chez Nicolas, figurez-vous. Alors, c'est la première fois, Laurie, qu'on déguste un vin qu'on a acheté chez Nicolas. Donc on n'a rien contre cette grande chaîne de cavistes, mais c'est vrai que d'habitude, on privilégie plutôt les petits cavistes. Et là, j'ai eu envie de le prendre quand même. D'abord parce que je suis rentré dans mon Nicolas, j'ai dit, est-ce que vous avez par hasard un blanc de Cassis? Il m'a dit, oui, bien sûr, j'ai ça en bio et qui est très bien. Et voilà. Et du coup, je l'ai goûté. Ça coûte 13 euros. Donc, qui dit Nicolas, ça veut dire que les gens qui écoutent peuvent le trouver dans le Nicolas à côté de chez eux, parce que je crois qu'il est à peu près dans l'assortiment national. Et du coup, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de vin. Donc,
La particularité de Cassis, c'est que en Provence, on n'a que 5% de blanc pour en gros 80% de rosé, 15% de rouge. Et voilà. Donc, le blanc est très minoritaire, sauf en fait à Cassis, où le blanc domine.
Je te coupe, Patrice, ouais. Mais notre documentaliste Grégoire, qui est à côté, qui m'a glissé le film en question, Une grande année.
Tout à fait.
Une grande année.
Et c'est Marion Cotillard.
Avec Marion Cotillard, de Ridley Scott, avec Russell Crowe. Et ça se passe bien en Provence.
C'est quoi le nom en anglais ?
Écoute, c'est une grande année.
A great year.
Je ne sais pas si ce soit a great year, mais a good year.
Ah !
Voilà, comme les pneus.
D'accord.
Merci Grégoire. Bon, enfin, il y en a qui suivent. Je ne suis pas sûr que le film soit un grand film, par contre. Pardon, Patrick, je t'ai coupé.
Non, non, la particularité de l'appellation Cassis, c'est qu'elle est toute petite. Elle fait 215 hectares sur les 27 000 de la Provence. C'est moins de 1% de la Provence, donc c'est microscopique. Par contre, effectivement, pratiquement 80% de la production est en blanc, ce qui est rare pour la Provence, pour Cassis. Et l'autre particularité, c'est qu'on est sur une petite arène qui est vraiment en bord de mer, et donc qui bénéficie de l'influence maritime.
Florence ?
Bah, y a quelque chose que je retrouve, qu'il y a toujours une pointe d'amertume. Et c'est cette amertume qui donne un côté rafraîchissant au vin et qui est assez agréable. Ça contrebalance le côté très fruité qui peut faire un peu sucré.
Un peu trop riche.
Justement, on c'est pas ce qu'on recherche dans un vin de Provence. On recherche un blanc fruité, fin, mais aussi avec ça peut être de l'acidité ou de l'amertume qui pour lui apporter de la fraîcheur. Et on a besoin de cette fraîcheur parce que on a besoin de cette fraîcheur. Faut quand même savoir que le terroir est très très chaud. Heureusement que ça contrebalance avec cette acidité ou cette amertume pour lui apporter de la fraîcheur, sinon ce serait des vins trop riches, trop lourds, trop puissants. Enfin, et là c'est bien, ça porte un côté un peu frais, un peu rafraîchissant et facile à boire. On leur demande pas d'avoir une grande complexité, c'est parce qu'on recherche quand on a envie d'un blanc de Provence, on a envie de fraîcheur, voilà, on a envie d'un vin pour l'apéritif, avec les copains, pour se faire plaisir, pour boire facilement.
Pour moi, il fait le boulot. Comment tu le trouves, Laurie, ce vin ?
Ça se boit tout seul, comme on dit. c'est très très bon.
Amatrice de blanc que de rouge. Hein.
Oui, j'adore le vin blanc. Et justement, moi, j'aime moins les vins très sucrés, très fruités. Donc je suis d'accord. Je n'aurais pas dit amertume, mais c'est justement ça. Mais je suis d'accord. Je trouve que c'est assez rafraîchissant. J'adore.
Laurent, t'as des blancs de Cassis, toi, à la carte, au Wine Therapy,
quoi ? Non, je n'en ai pas. Et j'ai cherché à en avoir, justement, en préparant l'émission. Bon, c'est une petite appellation, effectivement, et je n'ai pas trouvé encore le domaine vers lequel je vais me tourner pour en avoir.
Je reprends le fait de trouver du vin de Provence pour la cave à Paris. C'est un petit peu un souci que j'ai moi aussi. C'est assez compliqué. J'ai fait au mois de juin l'année dernière une grande dégustation de vin de Provence là-bas à Aix. On a goûté beaucoup de rosé, beaucoup de blanc. Ils sont très contents de vous faire goûter leur vin, mais ils sont pas plus décidés que ça à vous en vendre parce qu'ils n'ont pas de difficulté à en vendre sur place. Et donc, oui, bon, pour Paris, ouais, débrouillez-vous, quoi. Donc, c'est pas très évident de trouver des vins de Provence à Paris parce qu'on en trouve facilement sur place. Ils vendent énormément sur place. Ils vendent énormément à l'export. Donc, le reste de la France, Paris entre autres, hein, cette petite ville de la France, c'est pas si évident que ça de se fournir en vins de Provence. Alors, il y a le classique rosé de l'été qu'on vous propose, mais des très grandes maisons, et pas toujours forcément très agréable. Enfin, moi, ce que j'ai goûté, ça m'a pas énormément plu. C'est pour ça que sur cette saison, moi, je me suis portée sur l'offre de la cave sur un rosé de Provence, mais j'avais un autre rosé du Tarn, un rosé de la Loire et un rosé du Rhône. Et finalement, c'est vrai que le client parisien, il est là, il demande son rosé de Provence, mais c'est pas non plus ce qu'on trouve de mieux sur Paris.
Du coup, on va en profiter pour goûter un autre blanc. Celui-là, il est 100% roll. Donc, le nom.
Alors, le Clos Saint-Vincent.
Du Vermentino. On t'écoute. Florence.
Le Clos Saint-Vincent, donc, sur l'appellation Bellet. Bon, il faut savoir que l'appellation Bellet ne fait pas que du blanc. La particularité de celui-ci, c'est qu'on est en agriculture biologique, forcément, et on travaille vendange manuelle sur ce vin. Ils n'ont pas trop de problèmes pour les traitements parce qu'il faut quand même aussi dire qu'ils ont un joli temps hein, en Provence. Ils n'ont pas trop les problèmes liés à la maladie comme l'oïdium ou ce genre de choses. Au niveau du sol, on est sur un mélange un petit peu de sable. Et donc, s'ils voulaient s'amuser, ils auraient pu même aussi travailler en franc de pied parce que le sol est très sableux. On est sur une toute petite production. Il y a 5000 bouteilles qui sortent à peu près par an. Donc c'est,
faut dire que Bélé, c'est une appellation, c'est les hauteurs de Nice en fait.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est dans une zone ultra construite, quoi.
Voilà.
Et une pression immobilière énorme dans ce coin-là. Hein. Et il y a encore des vignes quand même.
Il y a encore des vignes et la particularité de celui-ci, hein, c'est un élevage en fût d'un an. C'est aussi pour ça, je voulais, parce que c'est assez rare sur la Provence, sur les blancs, d'avoir des élevages en fût. Donc je voulais qu'on teste un blanc sur un élevage en fût. Mais l'AOC est assez vieille, hein. C'est l'AOC Bélé, ça date de 1941. Donc,
oui, puis c'est un micro-domaine qui est complètement à l'est donc, pour le coup de la Provence.
Voilà.
Qui fait 60 hectares, donc c'est vraiment microscopique sur les hauteurs de Nice. Et effectivement, il est probable que ça ne s'étende pas.
Toute l'appellation qui fait 60 hectares.
Ouais, c'est ça. Donc il est probable que ça ne s'étende pas en dehors de cela. Et un des points qui est particulier à Nice, mais qui est vrai aussi en Provence, c'est que l'encépagement s'étend forcément au nord et loin de la mer, parce que les prix, la pression immobilière, elle est forte à Nice, mais elle est aussi hyper forte sur les bords de côte, d'où la rareté Cassis. Qui est un terroir en proximité de mer, mais il n'y en aura probablement pas d'autres. Et Bélé est probablement là aussi une des plus intéressantes, on va dire, malgré le côté microscopique.
Beaucoup de bio.
Pour le blanc, probablement des plus intéressantes.
Ce qui est intéressant, c'est que les rouges ont des cépages aussi complètement improbables, enfin dont on connaît assez peu le nom. Le braquet et la folle noire. Mais en fait, qui sont des cépages italiens. C'est une francisation de noms de cépages italiens. Donc le braquetto et je ne sais plus.
Brachetti
non, alors c'est la folle là.
Ah, ben voilà.
On a un nez qui est beaucoup plus intéressant que celui d'avant quand même.
Bah,
là, ça envoie, ouais.
Il y a une plus grande complexité du fait effectivement de l'élevage bois. On a l'aromatique du fruit et celle de l'élevage. Et donc ça rend effectivement l'ensemble, à mon sens, un peu plus complexe. Ouais.
C'est super bon.
Après, une des problématiques des vins blancs de Provence, c'est que souvent la malolactique, la fermentation malo est bloquée pour garder la fraîcheur. Donc ça limite beaucoup la complexité des blancs de Provence.
Mais là, je trouve qu'il y a une belle minéralité. Et je détecte même, alors je ne sais pas si je deviens obsédé par ça, mais pétrole, que j'aime bien retrouver dans le Riesling.
Moi, j'ai trouvé au nez, oui.
Et là, aussi bien au nez qu'en bouche, moi, j'ai cette petite...
On peut dire pétrole, ou moi, j'aurais dit cire d'abeille aussi.
Ah oui, ça fait moins peur. Ouais. C'est plus élégant, c'est plus sexy.
C'est vrai que ça ressemble un petit peu à des racines. Après, le millésime, là, on est sur du 2015. Moi, je trouve que c'est super maintenant. Voilà. Après, j'aurais pas dit...
Je pense que ça voyage pas dans le temps.
Tu penses que l'acidité n'est pas suffisante pour tenir dans le temps?
À mon avis, après, plus tard, ça risque d'être un petit peu lourd.
En tout cas, j'aime beaucoup. Hein.
C'est très beau. Au nez, c'est un festival et en bouche, c'est sympa aussi. Laurie, comment tu le trouves, ce deuxième vin?
J'avoue que j'ai préféré l'autre.
C'est vrai?
C'est beaucoup plus complexe que l'autre. Et je trouve que... Après, c'est pour une dégustation, donc on a une différence. Moi, je ne prendrais pas ça avec un apéro, par exemple.
Le premier, c'est vraiment la facilité,
oui.
C'est
la
ça.
L'apéritif, le vin de pain,
c'est très
tout de suite comme ça, il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose pour l'accompagner. Là, c'est sûr.
Celui-là, c'est plus avec un poisson,
on a plus envie d'avoir
quelque chose,
un
bon plat.
Je vois bien une dorade grillée avec des petits légumes, on peut se permettre de l'aubergine.
Ça salive là.
Aubergine confite là.
Oh là là.
Là, on a une petite planche concoctée par Morgane Fleury. Il y a plein de choses dedans. Rapidement, c'est du saucisson d'Ardèche, il y a du pâté, il y a du jambon, il y a des trucs et des fromages pour accompagner tout ça. Et il y a aussi un petit peu de tapenade, comme on est en Provence, on s'est dit qu'on allait accompagner ça avec des olives. C'est très beau. Rappelons comment ça s'appelle, le Clos Saint-Vincent.
Le Clos Saint-Vincent sur l'appellation Bellay. Voilà, Clos Saint-Vincent qui travaille en bio, biodynamie.
On trouve ça chez toi à l'ABC du vin.
On trouvait, il faudra attendre le prochain millésime, c'était la dernière bouteille, désolé. Ah, bientôt ça, au mois de mars.
C'est vendu combien ça à peu près?
Alors, à la cave, 35 euros, si je ne me trompe pas. Alors, élevage en fût, vin en agriculture biologique, appellation pas facile à trouver. Donc voilà, on est quand même sur...
Tout de suite, les prix montent.
Sur un prix qui monte. Il était à combien le cassis?
13 euros.
Mais les vins sont très
c'était
différents.
C'était aussi la volonté d'avoir des vins très accessibles.
Ils ont deux profils très différents. Le premier est le vin d'apéritif de soif, de plaisir. Le deuxième est forcément plus complexe. Et,
plus un vin de gastronomie.
Et vraiment, c'est un vin qui demande à manger quelque chose avec. Mais ça peut être sympa aussi.
Il se mérite celui-ci, hein, quand même. Hein. Il se mérite. Il y a quand même un travail dessus qui est énorme.
Oui, forcément. Et puis voilà, on a parlé. Les vins de Provence sont des vins chers parce que
la pression immobilière.
Donc forcément, les terres coûtent cher.
Les vrais vins de Provence. Ceux qui sont travaillés, ceux qui ne sont pas volumiques.
Donc du coup, parce qu'ils n'ont pas trop les soucis de traitement comme on peut avoir sur d'autres régions comme la Bourgogne ou ce genre de choses. Le temps est quand même idéal pour la production du vin, hein, pour la production des vignes. C'est pour ça qu'ils ont installé les vignes originairement là-bas.
On a assez peu de maladies liées à l'humidité. Parce que
pas trop de problèmes de l'humidité. Il faut faire attention au niveau du vent. Mais parce qu'on en reparlera tout à l'heure quand on parlera du rouge. Mais la plupart des producteurs ne se contentent pas de faire que du vin. Ils font d'autres choses. Ils ont des oliviers, ils ont de la garrigue. Ces producteurs-là qui travaillent en bio, ils essayent de travailler en plantant au début des parcelles des arbustes pour couper du vent, justement pour protéger les parcelles. C'est pas juste de la monoculture pure et dure, on fait que de la vigne, beaucoup ont des oliviers, ils ne font pas que de la vigne.
Et beaucoup de no-tourisme aussi maintenant.
Hein. Et énormément de no-tourisme. Ouais,
ça c'est vraiment une activité qui s'est bien développée en Provence facilement, parce que c'est quand même un lieu de vacances. Donc.
Il n'y a pas le moindre producteur qui n'a pas sa cave où on peut déguster sur sa salon de dégustation. Très beau, d'ailleurs, dans cette dégustation. Il y a les moyens. Hein,
oui. Le rosé rapporte quand même beaucoup d'argent.
Ils sont pas malheureux, je crois, les producteurs de vin.
On va parler de rosé juste après. Moi, je confirme en tout cas qu'avec un petit truc à manger, c'est fantastique. Hein. Avec un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, là, il prend encore une dimension supplémentaire. Oui, Patrice, je t'ai coupé.
Non. Je disais qu'en Provence, ce qu'on se disait un petit peu par la Champagne, c'est que le lieu précède le vin. Il y a des régions où le vin précède le lieu. On va en Bourgogne pour chercher du vin, on va en Provence pour voir la Provence. Et le vin est un accompagnateur du moment et du touristique. Quoi.
C'est la bonne nouvelle quand on arrive. Mais en fait, on a dit quand on a fait le tour des vins corses que les Corses... souffrait un peu d'être souvent associé au vin de Provence. Et je maintiens évidemment ça, hein, mais on trouve quand même des parallèles. La pression immobilière éventuellement. Le fait que le rosé soit omniprésent alors que ce n'est pas dans le rosé qu'on trouve les vins les plus intéressants. Parce qu'en Corse aussi, on fait beaucoup de rosé, c'est volumique. Mais au fond, les plus beaux vins corses qu'on a pu goûter, c'était des blancs et des rouges. Voilà, donc il ne s'agit pas de les mettre dans la même case. C'est deux régions différentes avec des terroirs différents, mais on trouve des petits parallèles.
Oui, puis quelques cépages en commun, dont le rôle Vermentino. En tout cas, en cépage, ça s'arrête à peu près là.
Absolument. Alors là, on est au stade où les gens se resservent.
Alors que... Fallait éviter de le dire, mais tout le monde s'est resservi. Ouais.
Non, mais au contraire, j'ai envie de le dire, parce que normalement...
Avec un peu de tapenade, on mange en fait, c'est pour ça.
Je crains les prochains vins, on va pas être capable de...
C'est comme ça. D'habitude, souvent on était dans des studios, on se rappelle de soir, d'hiver.
C'était plus studieux, quoi. Le bar invite à la consommation. Quand même.
Ouais, et puis au partage. On a une petite table, un plateau de belles choses à manger. Donc, ça, c'était les blancs. On a donc goûté un blanc mélange de plein de cépages, très vin
blanc
du
d'assemblage,
sud, très blanc d'assemblage du Rhône, quoi, comme on pourrait en trouver un petit peu plus haut.
Du Rhône et du Sud, parce qu'ils ont ouais, enfin, des cépages spécifiques. La Clairette et l'Uni.
Il ne faut quand même pas dire un petit vin, enfin là en l'occurrence, mais Cassis, c'est quand même une des toutes premières appellations AOC de France en termes d'histoire. Hein. Je crois que depuis, ils ont obtenu leur AOC des 36. Hein.
41, tu
non,
nous as 40, dit.
À 41.
Ah, c'est Bélé.
Ouais, non, je crois que
Cassis est encore en
terre. Cassis, c'est D36, je crois. Donc non, il faut pas. Enfin, là, en l'occurrence, on a eu un vin peut-être un petit peu simple, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment, des très belles choses à Cassis. Il faut pas.
Clos Saint-Madeleine, notamment. Puis on a un terroir et un microclimat à Cassis qui est donc ce cirque un petit peu fermé avec beaucoup d'influence maritime. Donc ça donne une spécificité au terroir. Et quand Kermit Lynch découvre le sud de la France et la Provence, avant d'arriver à Bondol chez les familles Perrault et Tempier, en fait, c'est évoqué dans son bouquin, hein, Mes Aventures, il est interloqué par les Blancs de Cassis.
Un livre qu'on a déjà recommandé, mais qu'on recommande à nouveau, voilà, Kermit Lynch, Mes Aventures sur les routes du vin en France.
Il est interloqué par les Blancs de Cassis. Enfin, c'est sa première réaction positive à la Provence, c'est quand il boit les Blancs de Cassis.
Bon, voilà. On a bu deux bons blancs. On va attaquer la montagne du rosé ou quoi là ?
Oui,
comme tout le monde s'est resservi.
La montagne du rosé ! Oh là là !
Non, n'exagérons pas, mais c'est vrai qu'on a passé toute une saison en évitant savamment le rosé. Et là, comme on commence avec la Provence, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on parle de rosé.
Effectivement, pour reprendre. Le rosé, le fait qu'on pose le rosé comme le rosé, déjà c'est une faiblesse. Ça veut dire qu'il n'est pas lié à un terroir. Donc, qu'on en parle, la Provence, c'est parce qu'il est ancré dans la Provence et qu'il donne une identité à la région. Si on parlait du rosé à part, ça veut dire qu'il n'a pas d'identité, qu'il n'a pas de terroir. Nous, on a abordé les régions, la Bourgogne, etc., etc. Pourquoi on aborderait le rosé de manière générique à part. Donc, ce qui prouve que c'est aussi pas complètement un vin. Et
Non, puis on va parler de la vinification. Non,
avec ce débat, je vais chercher la bouteille.
Bah, tu voulais qu'on gagne du temps. Donc,
c'est pas si compliqué que ça, parce qu'il y a deux grandes méthodes de vinification. Et finalement, quand on fait un parallèle, il y a une méthode qui ressemble énormément à la méthode de vinification en blanc, et il y a une méthode qui ressemble énormément à la vinification en rouge. Donc, finalement, paradoxalement, on a perfectionné des méthodes de vinification, mais on n'a pas inventé de méthode de vinification pour le rosé. Moi, je vais le faire maintenant. Il y a un petit point historique sur le rosé. Hop. En fait, dans l'Antiquité, on élaborait du rosé. On n'élaborait pas du vin rouge ou on n'élaborait pas du vin blanc. Les raisins étaient majoritairement rouges. Et les raisins, en fait, comme ils n'avaient pas de cuve, il faut savoir qu'on était sur les amphores, les raisins étaient foulés, à moitié pressés, avant d'être emmenés dans les amphores où se passait la vinification. Donc dans l'Antiquité, de l'époque de l'Égypte, si on regarde l'époque des Romains, finalement, les vins qui étaient produits étaient des vins qui étaient des vins rosés.
Le rosé, pour revenir au basique de basique, c'est plutôt des cépages rouges qui macèrent pas longtemps.
Voilà. Et en fait...
Il n'y a pas de raisin rosé.
Il n'y a pas de raisins rosés. Enfin, il y a des raisins rosés, mais on ne fait pas de rosé à base de raisins rosés. Il n'y a pas des raisins spécialement rosés.
Ajoutons et on que fait pas les raisins rouges sont à peu près tous blancs à l'intérieur.
Voilà, et on ne fait pas non plus de...
on a coupé Florence dans son élan. Vas-y, continue, on s'était.
Non, et je disais, en fait, le rosé qu'on appellerait le clairet était quand même le vin qui était majoritairement produit en France jusqu'au XVIIe siècle. Et c'était un vin de qualité. Les vins un peu plus classiques, style rouge que l'on connaît de nos jours, étaient des vins qui n'étaient pas des vins de grande qualité. On disait que c'était des vins forts. Et ça a été après des personnes qui travaillaient la terre ou des ouvriers ou ce genre de choses, ils avaient besoin de vins constituants, donc on a fait des vins rouges avec plus de tanins, avec plus de force, plus de puissance, parce qu'on disait que c'était des vins qui étaient plus nourrissants et donc plus aptes à cette clientèle plus ouvrière. Mais c'était d'un très grand chic jusque dans le XVIIe siècle de boire des clairets, de boire des rouges très très clairs, donc de boire des rosés en fait. Voilà, et ça vient de cette méthode de vinification que à l'époque de l'Antiquité, à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, ils n'avaient pas les cuves comme on a au jour d'aujourd'hui. Donc Donc le vin était déjà pressé avant d'être mis en amphore, où se passait la fermentation et où se passaient les autres étapes de vinification. Bon, voilà pour le petit point historique du
rosé. Il n'y a plus de débat, c'est du vin. Voilà. Maintenant, c'est on va essayer de le goûter. Alors, et de l'analyser comme un vin. Non ? Tu veux revenir ?
Non, enfin bon,
il n'est pas convaincu.
Non, mais il a pas encore. Enfin, est-ce que c'est un concept à part qui a sa pratique, etc. Est-ce que ça vieillit dans le temps ? Pour moi, un vin, ça vieillit 15-20 ans. Combien il y a de rosés aujourd'hui qui vieillissent ? Je pense qu'il y en a à peu près 1% sur l'ensemble de la production de rosé mondial. Non, mais c'est un débat. Et après, c'était un débat d'ailleurs qui était soulevé par les libres buveurs, Dominique Hutin, que je vous conseille, donc l'émission là pour le coup, en se disant bah voilà, est-ce que le rosé est une évolution entre le blanc et le rouge, qui pourrait être son positionnement, ou est-ce que c'est un produit à part, qui n'a pas de durée de vie, qui ne vieillit pas ? Pourquoi pas, hein ? Mais pour moi, il n'en a pas encore toutes les caractéristiques. On peut boire un excellent vin blanc qui a 30 ans. On peut boire un excellent rouge qui a 30 ans. Est-ce qu'on peut boire un excellent rosé qui a 30 ans ? À part Sainte-Anne à Bandol,
à part,
j'en connais pas beaucoup.
Peut-être pourcent de la production
en Provence, le
vieillissement. Où il va y avoir un rosé qui va être élevé en fût pour lui donner de la structure. J'ai eu l'occasion de goûter des comme ça. Mais bon, finalement, quand on goûte ce vin, si on était dans un verre noir, je parie qu'on dit que c'est un blanc, un blanc élevé en fût. On ne pense pas à rosé. C'est vrai que les typiques organoleptiques du rosé, c'est la fraîcheur, c'est le fruité, c'est le facile à boire, et c'est pas le gras, et c'est pas la matière, et c'est pas la puissance, et c'est pas tout ce qui fait qu'un vin a du potentiel de garde.
J'aimerais bien ajouter quelque chose sur le rosé.
Tu tranches ce débat.
Moi, déjà, juste, je suis bizarre comme américaine de ne pas aimer le rosé, parce que le rosé est beaucoup, beaucoup aimé aux États-Unis. Surtout parmi les vingtenaires jeunes femmes aux États-Unis. On fait des choses, mais on n'a pas autant de respect pour le rosé. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est transmis ici, en France. Bien sûr, ça vient de la France, mais à l'international, au moins aux US, on fait des choses pas possibles avec le rosé.
Il
l'appelle comment, le flush ?
Il y a le frosé, qui est un rosé qui est un peu en mode slushy, en glace. On a moins de respect pour ce produit, donc je pense que c'est aussi quelque chose qui est associé avec l'été.
Ça existe ici aussi, les rosés pamplemousse, les trucs bizarres.
Oui, et aussi on le vend en boîte un peu, c'est pas la même chose. Mais c'est vrai que le rosé, c'est beaucoup, beaucoup associé avec les soirées, les fêtes, en été. Donc je pense que c'est international, ça, de tous les côtés. Mais il y a vachement moins de respect pour ce produit que je pense que peut-être il mérite beaucoup plus de respect.
Voyons, goûtons-en un. Qu'est-ce qu'on goûte alors ? C'est toi qui l'as apporté celui-ci, Patrice ?
Alors,
est toujours en Provence, évidemment.
Dans les rosés, alors il y a des crus en Provence, on n'a pas dit, mais il y a 18 crus en Provence. Donc là, on est sur un cru classé, Rimoresque, qui est un des 18. Alors après, est-ce que c'est du lard ou du cochon ? On peut en parler.
Oui.
En fait, oui, mais c'est plutôt du lard. C'est plutôt du lard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un classement qui date de 1955, en fait, et qui avait été décidé sur des critères qui ne sont pas du tout organoleptiques, qui sont plutôt des critères de vente directe, d'historicité, c'est-à-dire d'ancienneté des domaines. Et donc, il y en a 18 qui ont hérité, qui ont fait un peu de lobbying d'un titre de cru classé. En fait, au départ, il y en avait 23, mais il y en a 5 qui ont disparu depuis. Donc, il y a toujours 18 crus classés en Provence, dont celui-là, qui s'appelle donc le Château Rimoresque. Alors, Rimoresque pour le nom, parce qu'il y a une rivière Moresque qui passe dans le domaine. Et c'est un domaine qui est assez grand, qui fait 60 hectares, à 20 km de Toulon, donc qui est en Côte de Provence, donc sur le très très gros volume. Hein. Sur les 27 000 hectares, on a 20 000 hectares en Côte de Provence. Donc là, on est vraiment sur un rosé, je dirais, pâle, donc le rosé classique qu'on a en image mentale, quand on pense au rosé de Provence, mais peut-être un peu au-dessus de la moyenne, d'abord un peu parce qu'il est classé, mais surtout parce qu'ils sont en conversion bio depuis 2017. Pour info, c'était une famille Isnar qui a créé ça dans les années 1900 et ça a été racheté par un groupe écossais, qui s'appelle les Vémis, qui font aussi des single malt et des whisky. Donc c'est une entreprise familiale, on va dire, du vin et des spiritueux. Mais c'est quelque chose d'hyper séduisant. Enfin, vous allez voir.
Dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un grand débat sur la couleur. Peut-être les cavistes qui sont là, les sommeliers qui sont là vont nous en dire plus, mais en gros, le gros de la consommation se fait sur une couleur très pâle.
Sur celle-là.
Alors, très clair. Le rosé de Provence que le client demande, c'est le rosé bien pâle, rose pâle, un peu saumonné, très très clair. C'est vrai que au niveau des autres rosés des autres régions, en général, on est quand même sur des couleurs beaucoup plus soutenues, beaucoup plus qui tirent sur le côté un peu fraise, un peu framboise.
Moi, j'ai en tête les vins de Tavel, par exemple, qui est une appellation rosée. On est sur un vin très foncé, très rouge. Et j'ai cru comprendre qu'ils avaient un peu des difficultés avec le marché, en tout cas le marché en France, en tout cas en termes de volume. Alors, je ne me fais pas trop de soucis pour Tavel parce qu'ils ont cette histoire, légitimité, tout ça, mais ce n'est pas les vins aujourd'hui qu'on consomme massivement. Quoi. Ils sont trop rouges.
On prend l'appellation Vaqueras, qui est très réputée pour ses rouges, un petit peu connue pour ses blancs, totalement méconnue pour ses rosés. Ils travaillent énormément sur leur couleur de rosé en essayant, par le biais de fermentation, en gardant les cuves le plus à froid le plus longtemps possible pour extraire le moins de couleurs possible parce que la demande sur le vin rosé est une demande de rosé très pâle, même si étant donné les cépages, étant donné l'appellation, on devrait être sur quelque chose d'un petit peu plus coloré, d'un petit peu plus foncé. Mais la demande française de vin rosé est une demande de vin de couleur pâle, très pâle.
Alors là, on est face à un vin qui est en phase, en gros, avec la demande.
Mais pas si pâle que ça.
Il y a encore plus pâle que ça.
Oui, il y en a qui font plus pâle encore. Là, c'est vraiment le joli rosé avec une pointe légèrement saumonée.
Ça, c'est beau. Hein. C'est vrai que c'est joli. C'est très lumineux.
Ça fait des jolies photos Instagram, surtout. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'aime bien.
Donc le château Rimoresque, donc 60 hectares, ils ont une gamme de rosés, de 5 rosés. Donc c'est quand même la grosse exploitation quand même. Et donc là, on est sur le milieu de gamme. Le Rimorès, ils ont des cuvées spéciales R, etc. Et c'est un vin qui est construit, c'est ça que j'ai trouvé ça aussi intéressant. C'est-à-dire qu'ils affichent ostensiblement, et c'est assez bien fait, le fait qu'on ait le Grenache et le Cinsault pour la typicité, c'est-à-dire pour l'identification provençale. On a du Mourvèdre et de la Syrah pour la structure. Et comme ils disent, le dernier, je crois que c'est, je vérifie.
Il y a du Mourvèdre là-dedans.
Oui, il y a 10% de Mourvèdre.
Okay.
Et voilà. Et donc, effectivement, voilà, Rolle, Uniblanc et Carignan pour la complexité. Donc, on a une construction pensée, on va dire, d'un produit.
Un peu ésotérique. Hein, avec des...
Non, mais c'est un assemblage qui est assez classique. Hein. Les rosés sont souvent des... Mais on a souvent une base de... Grenache-Cinsault, qui sont les deux fondamentaux du côté très fraîcheur, très sudiste, très, très ensoleillé.
C'est un assemblage de cépages rouges et de cépages blancs. On dit bien que le rosé n'est pas un mélange de vin rouge et de vin blanc, ça c'est clair. Mais là, tu cites les cépages.
Oui, il y a plusieurs cépages. Cites, exactement.
Des cépages rouges, typiquement rouges,
et d'autres sont des cépages blancs.
Parce qu'il y a droit à un certain pourcentage.
C'est pas justement pour avoir une teinte la plus claire possible. Pardon, je t'ai coupé.
Non. Je disais juste qu'il y a une tolérance sur un certain pourcentage de raisins blancs dans la fabrication de rosé. Mais en fait, au niveau des fabrications, je disais il y a deux méthodes. Il y a la méthode du pressurage, qui en fait est la même méthode que le blanc. On récolte les baies. On récolte les grappes, on extrait les baies par le mode de l'éraflage. Donc l'éraflage, c'est se débarrasser de la rafle, ce qui fait un peu le squelette de la grappe. Et donc ces baies sont pressées. Après l'éraflage, on presse les baies, exactement comme pour faire un vin blanc. Le pressage, plus on va presser fort, plus on va extraire de la couleur. Il faut savoir que la couleur, tous les raisins qui sont utilisés en vinification, donc, c'est-à-dire pour faire du vin en France, ce sont des raisins qui vont avoir une chair blanche. La couleur se trouve dans les peaux. La couleur, c'est ce qu'on appelle les anthocyanes, ce qu'on appelle les flavones chez les blancs, anthocyanes chez les rouges. Et donc, plus on va presser, plus on va obtenir de couleur. Donc ça, c'est la première option qui est utilisée en Provence, qui est autorisée. La deuxième option, c'est le rosé de Seigné, qui est aussi autorisé en Provence, mais qui est la formule la plus utilisée dans les autres régions. Le rosé de Seigné, c'est on va saigner une cuve de rouge. C'est la même chose. on prend les grappes de raisin, on les érafle, on ne garde que les baies. Puis après, on fait l'étape du foulage, c'est-à-dire que l'on éclate les baies pour que le jus, la pulpe transparente qui est à l'intérieur se retrouve en contact avec la peau, les anthocyanes. Et on va laisser macérer. Sauf que là, la macération va être plus courte que pour faire des rouges. Et donc, ça peut durer 2 heures comme ça peut durer 2 jours. Et on va, cette méthode, c'est ce qu'on appelle la maîtrise du froid. On va essayer de faire très attention de ne pas avoir de démarrage en fermentation parce que sinon, là, on va extraire trop de choses, trop de tanins, trop de choses puissantes. Et donc, on va saigner cette cuve, en général 20%, et on va faire du rosé. Le reste va être utilisé pour faire du vin rouge. Dans le cas où on utilise toutes les cuves, c'est ce qu'on appelle un rosé de macération. Voilà pour l'explication, les blancs, les rouges. Après, que ce soit sur la version pressurage ou que ce soit sur la version saignée, on refait exactement la même. Les fermentations se passent, l'élevage se passe, et on met en bouteille et c'est exactement les mêmes méthodes que des vins. Mais finalement, ça va être assez technique. Tout ça, ça va dépendre du terroir, ça va dépendre de la qualité des raisins, ça va dépendre du cépage. Chaque vigneron va faire un petit peu sa sauce à sa manière pour obtenir la chose qu'il veut. Il faut savoir que la loi interdit de faire du rosé en mélangeant du blanc et du rouge. Sauf pour une exception.
En champagne.
Alors, pas que en champagne, pour les vins mousseux.
Ah, d'accord.
On peut faire même ailleurs qu'en champagne. Après, il y en a des petits malins qui avaient essayé de faire du vin rosé en mélangeant du blanc et du rouge. Alors, ils ont dit que oui, mais bon, c'était pour faire du rosé pamplemousse. Alors bon, c'est vrai, rosé pamplemousse, est-ce qu'on peut dire que c'est du vin? Je ne suis pas sûre. Ils se sont un petit peu retranchés derrière la loi européenne qui disait, bah oui, mais la loi européenne, ça ne l'interdit pas, puisque dans les autres pays, je parle de l'Italie, je parle de l'Espagne, c'est comme ça qu'on fait du rosé. On mélange du vin blanc avec du vin rouge. L'Europe a fait botté en touche. Non, c'est le pays d'origine qui décide et c'est selon ses lois. Donc en France, c'est selon la loi française. On ne fait du rosé que par ces deux méthodes de vinification. Donc la loi, la saignée ou la macération. La loi est l'article 17 et le décret qui date de mai 2012. Donc c'est assez récent en fait.
D'accord, oui, qu'on a tranché.
Qu'on a tranché
je me rappelle de ce débat dont il a été question.
Oui, les autres pays peuvent le faire, pourquoi pas nous?
Bah non.
Non, on a une exception qui est l'exception française.
Comment vous le trouvez ce vin là alors?
Finalement.
Parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'on a dans les verres?
Il y a un petit côté structuré quand même sur la fin, une certaine amertume, une certaine longueur, me semble-t-il.
Je suis pas très fan, voilà.
Moi non plus.
Je viens faire l'émission sur les rosés et j'aime pas les rosés. J'explique la vinification et j'aime pas ça.
On va en goûter un autre après dans la prochaine émission.
Je suis pas très amoureuse. Voilà,
bon. Non, Laurie, ça t'a pas réconcilié avec les rosés?
Non, pas vraiment. Je sais pas, mais c'est
facile à boire, ça a pas beaucoup de personnalité, quoi.
Oui, je sais pas, je préférerais boire un bon vin blanc qu'un rosé, je sais pas pour. Pour moi, ça rajoute pas quelque chose, sinon un bon couleur. Et le goût, c'est pas. Je sais pas. Je suis pas fan du rosé. Alors, franchement, c'est dommage parce que j'imagine qu'il y a des très bons rosés, mais ça.
C'est pas celui-là qui t'a fait changer d'avis, en tout cas. Bon,
je trouve qu'il est très classique.
Un rosé de Loire très sympa.
Ah, des rosés de Loire.
Rosé du Rhône, rosé de Loire, il y a des choses très.
Rosé du Rhône, j'ai déjà goûté, rosé de Loire, j'en connais pas. Ouais.
Sur l'appellation Saumur, par exemple.
Non, mais c'est vrai que moi, j'adore les blancs, mais les rosés, je n'y vais pas.
Effectivement, sur les rosés de Provence, qu'on peut reprocher, c'est que 95% de la production, c'est quelque chose d'hyper standardisé. Encore une fois, il ferait du Kiri ou autre chose, ce serait pareil. Hein. Il peut en parler, c'est-à-dire les malolactiques sont bloqués. Les levures sont souvent pas indigènes.
On essaye de faire un produit qui soit toujours le même.
Encore une fois,
indépendamment du millésime,
pas d'effet millésime.
Donc on est sur
tout ce qu'on n'aime pas.
Exactement, un truc où il y a pas de caractère qui est juste là pour dire bah, ok, vous buvez ça frais à l'apéro et c'est désaltérant. Donc pour moi, ça c'est pas du vin. Mais encore une fois, on va reprendre le débat.
Mais ça après, c'est le débat entre vision industrielle et vision artisanale.
Après, le rosé a une influence énormément. C'est le seul endroit au monde en Provence et le rosé a eu de l'influence sur les autres vins. C'est-à-dire que les vins rouges notamment, sont amenés à avoir beaucoup plus de fraîcheur. C'est-à-dire que l'influence du rosé a donné une tendance plus fraîche. Et donc, on a des retours d'anciens cépages dans les rouges qu'on n'avait pas. Donc il y a eu un effet bénéfique quand même. C'était plutôt sur les trucs un peu costauds, Mourvèdre, etc., etc., Syrah traditionnel provençal. Le rosé a donné une influence plus fraîche à la Provence, et donc on a un retour de cépages autochtones dans les rouges au niveau de la Provence. Donc le rosé a eu de l'influence pour le coup, et à la fois sur le volume, mais aussi sur les aspects organoleptiques sur les rouges de Provence. Et on a quand même certains fondamentalistes, on pourra en reparler, mais notamment du côté de Bandol, Palette, le rosé de Palette, notamment au Château Simone, est hyper intéressant. Sainte-Anne, c'est fantastique en Bandol. Donc il y a quand même un centre de rosés qui ne sont pas la majorité, mais qui sont des vraiment des vins. Il y a des démarches. Coup,
mais il y a un élevage
vignerons.
En fût. Voilà. Exactement. C'est des vins qui sont à garder, qui sont sur la longueur. Vins. Après, c'est très cher. Hein. On est sur 50 euros à peu près chez le prix caviste.
Non, Sainte-Anne, on est à 17. Sainte-Anne, on est à 17 en Bandol. Simone, effectivement, parce que c'est une star, on est à 30. Hein. Mais c'est parce que c'est une star.
Ouais, 30, 50 euros, c'est plus ce prix restaurant.
Et puis Palette, on est sur un micro-terroir où il y a juste 3 vignerons sur le domaine. Mais en Bandol, il y a des choses intéressantes. Si on va chez Château Prado, Château Sainte-Anne, donc il y a des choses intéressantes en rosé en Provence, malgré tout.
Ouais, je vais avoir un petit regard cynique sur le truc. Je trouve que, pour changer... le rosé permet aux vignerons de mieux vivre. Il leur apporte de la trésorerie rapidement, contrairement à ce qui se fait sur les rouges et les blancs. Donc, après tout, on est dans un monde qui est quand même régi par les flux.
J'ai juste un jugement esthétique, hein, pas capitaliste.
Oui, bien sûr. Mais quelque part, il ne faut pas oublier, et je pense à Bandol, parce qu'on va parler de Bandol à un moment donné, c'est que grâce au rosé, les vignerons de Bandol peuvent faire de très bons rouges parce qu'ils les immobilisent pendant 18 mois en fût. Et quelque part, le rosé, c'est un moyen de ramener rapidement du cash et de pouvoir financer des vins qui vont vieillir plus longtemps.
Le domaine Tempier, qui est quand même le domaine le plus connu de Provence,
à Bandol,
ils ont acheté 20 hectares pour faire du rosé. C'est-à-dire que les derniers, en 2015, ils ont acheté 20 hectares supplémentaires pour produire du rosé. Pour
mais ça,
suivre le marché.
Ils vont continuer à faire des grands rouges.
Peut-être, mais pour continuer à faire des grands rouges. Mais effectivement, pour avoir une cash machine intéressante.
Voilà, on arrive au bout de cette première émission consacrée au vin de Provence. On va en faire une deuxième sur les vins de Provence parce que... Ami Laurent Delso a déjà commencé à teaser un petit peu en annonçant des noms magiques. Bandol, on va parler de Mourvèdre, je pense. Il va y avoir, je vous l'annonce, un autre rosé un petit peu plus coloré, justement, et puis surtout deux rouges qu'on va découvrir. Merci Laurie Martinez d'avoir été notre première invitée de l'année. On était ravis.
Merci. Je ne sais pas si j'ai rapporté grand chose. J'ai beaucoup appris par contre. C'est, pour moi, découvrir les vins comme ça, c'est quelque chose qu'on. On n'a pas une culture de ça aux States. Oui, en Californie peut-être, mais moi, à New York, j'ai jamais eu le plaisir de faire ça. Mais c'est vachement intéressant et c'est aussi pour ça que j'ai commencé. Et je vais faire un petit promo
si
là.
Je voulais te dire, t'as un joli projet toi sur le vin en anglais.
Oui.
La terre à boire en anglais.
Oui,
the
bah.
To drink.
c'est un bel projet que je commence cet podcast. Automne. C'est un nouvel podcast sur le vin qui s'appelle Girl Meets Glass. C'est justement pour décortiquer le sujet du vin un peu comme la terre à boire, mais en anglais. On va découvrir des régions par saison, donc il y aura 8 épisodes dédiés à la Champagne, la région de Champagne. J'ai hâte de commencer ça et vous allez découvrir ça cet automne. Donc voilà.
Allez faire un tour dans la maison fleurie qui nous accueille aujourd'hui. On y voit d'excellents champagnes.
Oui, bien sûr.
Bonne chance dans tous ces projets. On se réjouit de lire les prochains épisodes d'À Poil. Et puis, voilà, ce nouveau podcast sur le vin en anglais. Merci infiniment, Laurie.
Merci.
Et à très bientôt. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir. Salut, Florence. Salut, Laurent.
Au revoir,
Patrick. Bye, bye, bye. Bye.